Utopie.
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 Pluriel.
Utopie plurielle.
Utopie plurielle.
Utopie plurielle.
Utopie plurielle.
Utopie plurielle, le podcast de la turbine.
La turbine.
La turbine.
Le podcast de la turbine.
Partir à la rencontre de celles et ceux qui vivent en utopie, qui la pensent, l'inventent et la déclinent au pluriel. Artistes, philosophes, urbanistes, écrivains, laissons la parole à celles et ceux qui ouvrent l'horizon de futurs désirables, aux faiseurs d'imaginaires qui explorent d'autres possibles. Aucune carte du monde n'est digne d'un regard, si le pays de l'utopie n'y figure pas. Oscar Wilde.
Utopie plurielle, le podcast des faiseurs d'imaginaires. La Turbine, saison 2, épisode 6. Avec Utopie Pluriel, la Turbine donne la parole aux artistes, aux chercheurs, aux chercheuses, aux hommes et aux femmes avides d'expériences qui incarnent des utopies humanistes, la tête dans les étoiles et les deux pieds dans la terre. Ils et elles ont pour point commun d'être au cœur d'aventures collectives courageuses et de faire confiance au pouvoir de leurs rêves pour transformer le réel. Aujourd'hui, nous parlons synergie, coopération, tissu social. Aujourd'hui, nous parlons intelligence collective, ou comment relever les défis de société par la force du collectif. Aujourd'hui, nous donnons la voix à quelqu'une qui porte la voix. Notre invitée de cet épisode est choriste au sein du Chœur de l'Orchestre de Paris. Investie dans la facilitation en intelligence collective, elle est la fondatrice du podcast Fréquence Collective. Ses maîtres mots, qui ne sont pas sans rappeler la vision de la turbine, sont inspirer, réveiller l'enthousiasme et l'envie d'agir. Avec elle, nous allons tenter d'aiguiser notre regard sur les interactions sociales pour interroger les équilibres entre individuels et collectifs et repenser nos émotions et nos modes d'action comme levier face à la transition pour réinventer les possibles. Entre concept abstrait de système social et utopie concrète, l'intelligence collective se joue dans tous les règnes, animal, végétal et humain. Bonjour Caroline Irigoyen.
Bonjour.
Vous êtes investie dans la facilitation en intelligence collective et vous mettez un point d'honneur à la faire rayonner. Équipée de votre micro, vous partez régulièrement à la rencontre d'autres faiseurs d'utopie, bien décidés à agir grâce à la force du collectif. La boxe, la danse, la permaculture, la démocratie, le biomimétisme, l'urbanisme ou encore et surtout la musique ont été dans votre travail autant de portes d'entrée vers la notion d'intelligence collective. Mais avant d'aborder plus en détail ce sujet avec vous, laissez-moi vous poser la question rituelle d'utopie plurielle, celle qui ouvre chacun de nos entretiens. Quelle utopie avez-vous abandonnée et quelle utopie poursuivez-vous ?
Alors, quelle utopie j'ai abandonnée ? Je me demande si j'en ai déjà abandonné, parce que ça suppose d'avoir conscience d'en avoir une et de se battre pour elle, et de donner de l'énergie. Je pense qu'on peut tous en avoir sans trop s'en rendre compte. En tout cas, je pense que j'ai eu un combat, c'est celui d'essayer de ne plus trop essayer à comprendre tout le monde, à comprendre les personnes qui m'entourent. Et c'était peut-être une utopie. En même temps que vous posez la question, je me dis, est-ce que c'est une utopie de vouloir absolument comprendre tout le monde pour se sentir en symbiose avec tout le monde et que les choses avancent bien dans un collectif? Et je pense que c'est quelque chose que j'ai pu commencer à abandonner, en tout cas lâcher prise sur le fait d'essayer de comprendre tout le monde, parce qu'on peut très bien se respecter, s'accepter, sans forcément comprendre tous les modes de fonctionnement. Donc je pense que c'est quelque chose que j'ai un petit peu, sur lequel j'ai un petit peu lâché prise, et qui a permis de laisser plus d'espace et de disponibilité pour justement une utopie qui aujourd'hui m'anime beaucoup, qui est celle de la force du collectif. Pour moi, la force d'un collectif n'est pas forcément ne résulte pas forcément d'une compréhension mutuelle d'absolument tout le monde, mais plus d'un esprit de groupe qui permet d'accueillir les différences et les diversités, de les accueillir et de les accepter juste dans un en soi, d'accepter une différence. Donc aujourd'hui, ce qui m'anime comme utopie, c'est vraiment qui est une utopie, mais concrète, donc l'objet du podcast, c'est comment faire vivre les collectifs aujourd'hui dans la bonne direction pour répondre aux enjeux de société qu'on traverse aujourd'hui, donc sur les sujets qui touchent l'écologie, la crise politique qu'on rencontre, les inégalités sociales, économiques, donc tous ces sujets de société qui aujourd'hui sont assez criants. Pour moi, c'est la force du collectif qui va pouvoir permettre de répondre à tout ça et qui va donner de l'élan pour qu'on aille vers la meilleure solution possible à long terme. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que je porte et quelque chose qui aujourd'hui me semble une évidence pour qu'on puisse aller plus loin ensemble.
Merci. L'un des exemples les plus immédiats pour peut-être les gens qui, comme moi, ne sont pas experts en intelligence collective, c'est à mes yeux le système organisationnel d'une fourmilière. Puisque la fourmi est un insecte social s'il en est, qui impressionne à la fois individuellement par ses prouesses physiques. Je pense qu'on a tous en tête l'image d'une petite fourmi qui porte un très gros grain de raisin. Et à la fois, par l'action du collectif, la fourmi développe des capacités assez troublantes, que ce soit en architecture, en migration, en approvisionnement. Donc moi, je trouve que c'est un exemple très poétique, comme porte d'entrée, en fait, vers la notion d'intelligence collective. Mais je pense que pour vous, la porte d'entrée a été tout autre. Il s'agit de la musique. Qu'est-ce que c'est pour vous, l'intelligence collective? Et surtout, comment la musique a fait résonner cette notion en vous?
Oui, c'est une très bonne question. J'ai peut-être commencé par répondre à celle qui touche la musique, parce que ça a été vraiment, personnellement, ma porte d'entrée sur ce sujet. Donc effectivement, comme vous le disiez en introduction, donc je suis choriste au chœur de l'Orchestre de Paris depuis maintenant 5 ans. Et c'est une expérience qui a été très porteuse et inspirante, et notamment sur ce sujet du collectif. Dans un premier temps, c'est vraiment le concept de résonance et d'harmonie qui m'a beaucoup questionnée, qui m'a beaucoup émerveillée, qui m'a inspirée. C'est que dans les répétitions qu'on avait avec le chœur, donc on a beaucoup travaillé avec un chef de chœur qui s'appelle Lionel So, qui maintenant est parti à Radio France, et qui nous a toujours beaucoup porté sur cette notion d'harmonie, de résonance des voix. Et je suis toujours épatée de voir qu'avec des voix très différentes, des tessitures différentes, des hauteurs de voix différentes, des histoires différentes, chacun avec un corps différent qui porte la voix différemment, on arrive à trouver des résonances, on arrive à entrer en communion sur des accords, sur des notes, et on est vraiment dans une symbiose tous ensemble. Et il se passe quelque chose à ce moment-là qui est extrêmement fort, et donc j'ai commencé à me dire, mais comment c'est possible d'arriver dans cet état-là d'harmonie tous ensemble avec toute cette diversité de voix, d'histoire, voilà, que j'évoquais tout à l'heure. Donc je pense que ça a commencé par beaucoup de surprises et d'étonnement. Et je me suis aussi beaucoup interrogée sur, en tant que groupe, dans le chœur, les interactions qu'il y avait entre nous et le fait de bien s'entendre ou pas avaient un impact sur ce qu'on transmettait musicalement et sur la performance musicale qu'on avait. Donc il y a eu des expériences réussies et des expériences moins réussies, et c'est assez incroyable et saisissant de voir à quel point le fait qu'un groupe s'entende bien, que les interactions fonctionnent bien, alors pas forcément avec tout le monde parce que c'est jamais possible, mais en tout cas en tant que groupe, qu'est-ce qui se passe? Et je me souviens d'une expérience avec un chœur invité avec lequel on devait chanter une œuvre, donc le Requiem de Berlioz, qui est une œuvre techniquement très difficile. En fait, la rencontre ne s'est pas bien passée avec les deux chœurs, donc on a chanté avec un chœur où la culture musicale était très différente, on n'a pas trop réussi à se comprendre, et le résultat musical a été assez compliqué. On a beau avoir tous les éléments techniques pour savoir faire de la musique, pour savoir la lire, pour savoir chanter ensemble. S'il n'y a pas quelque chose d'un groupe qui nous porte aussi, on n'arrive pas à transmettre correctement. En tout cas, cette expérience-là m'a assez saisie sur ce côté-là, comment un groupe va impacter ce qu'ensuite on va transmettre. Et du coup, à partir de là, je me suis dit, mais qu'est-ce que porte la musique? Qu'est-ce qu'elle permet de transmettre ou non? Qu'est-ce qu'elle permet en termes d'écoute aussi, quand on chante? Le fait d'arriver à s'écouter les uns les autres, en fait, c'est comme un réajustement. Des fois, je pense un peu à une pratique d'ostéo. Quand un ostéo va venir bouger un petit os ou une petite articulation dans notre cheville, et ensuite ça va moduler tout ce qui se passe dans notre corps jusqu'au haut de notre tête. Je me dis, quand on fait de la musique, ou quand on est tous ensemble, le fait qu'on arrive chacun à notre endroit à bouger, des petites manières d'écouter, des manières d'être ensemble, bah ça va avoir un impact sur l'ensemble du groupe, comme peut faire un ostéo avec notre corps. Donc voilà, j'ai vraiment commencé à m'interroger sur le collectif, nos responsabilités individuelles et l'impact sur le collectif par la musique, par le son, et notamment aussi parce que sur le plan acoustique, le fait de découvrir qu'un son par exemple un do, un ré, un mi, est une vibration qui résulte de milliers d'autres vibrations pour créer ce son-là, je trouve qu'autant sur le plan musical que sur le plan humain, je me suis dit, entre l'individuel et le collectif, entre un élément isolé et ce qui se passe autour dans la diversité, ce qui va venir le nourrir, donc un son, mais c'est aussi pareil pour une couleur est nourrie de milliers de couleurs. J'ai trouvé ça très inspirant pour réfléchir, nous, en tant qu'êtres humains, comment on peut mieux vivre ensemble, quelles sont les choses qui viennent renforcer un collectif, un groupe, ou quelles sont les choses qui viennent le fragiliser. Donc voilà, c'est vraiment par la musique que ces premiers questionnements sont arrivés.
Je trouve ça passionnant et un peu émouvant aussi. J'ai eu les frissons par moment. Et donc, fort de tous ces constats-là que vous venez de dresser sur votre rapport à la musique et la porte d'entrée que ça a constitué pour vous en intelligence collective, comment du coup vous définissez concrètement l'intelligence collective ? Qu'est-ce que c'est ?
Alors l'intelligence collective, donc ça paraît être un grand mot, c'est vrai que quand on l'entend et quand on en parle sans trop connaître les contours, ça fait un gros concept intellectuel. Déjà le mot intelligence, on a l'impression que c'est un concept sociologique et psychologique tellement compliqué, et souvent même on répond pas trop en se disant « bon, j'ai pas trop compris, laissons ça un peu de côté ». Mais ce qu'il y a derrière est extrêmement simple. Pour prendre une idée, donc l'intelligence collective, elle se définit pour moi d'abord par l'émergence. Et pour donner une idée très basique de ce que c'est que l'émergence, c'est, par exemple, si on prend l'eau, elle est constituée d'atomes d'hydrogène et d'atomes d'oxygène. Et ces deux atomes, quand on les prend séparément, on ne peut pas imaginer que l'oxygène peut faire de l'eau et que l'hydrogène peut faire de l'eau. Isolément, ils ont leur identité et ils ne peuvent pas produire de l'eau. Et c'est quand ils s'associent, donc quand il y a vraiment un trait d'union qui vient opérer une combinaison entre eux, que l'eau va pouvoir exister. Et du coup, l'intelligence collective, c'est l'émergence de l'association ou de l'interaction, du trait d'union entre les deux. Donc notamment, là, je parle d'atomes, mais c'est le cas pour des cellules isolément. On ne peut pas deviner qu'en se mettant ensemble, elles peuvent faire un organe et faire émerger quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Donc ça élargit à plein d'autres concepts, donc l'économie, comment sur le plan urbain on pense une ville, sur le plan humain on interagit, enfin c'est toute une science pour moi, une ingénierie du lien, ça vient vraiment toucher qu'est-ce qui vient relier deux choses et créer quelque chose de nouveau entre deux personnes, par exemple vous et moi, isolément. Il ne se passe pas de podcast, mais ensemble, un projet, quelque chose de nouveau va naître. Et donc c'est vraiment ce concept d'émergence qui va sortir de deux entités, de deux cellules, de deux éléments, de deux personnes, et quelque chose de nouveau. Donc il y a cette notion-là d'émergence, et ça vient questionner très fortement pour moi les systèmes, et c'est là que je trouve ça passionnant, c'est qu'on va interroger l'interaction, et pas les choses de manière isolée. J'ai vu notamment un documentaire qui s'appelle Football, l'intelligence collective de Jean-Christophe Ribaud. C'est un documentaire qui a été fait il y a maintenant quelques années et qui parle du football, comment en tant qu'équipe, tous les joueurs, de manière isolée, ont chacun un rôle, mais ce qui se joue pour qu'on aille tous vers le but commun, donc que ce soit être de manière offensive ou défensive, mais on va vers un but commun qui est d'être avec un ballon sur le terrain et d'avoir des règles du jeu qui nous permettent d'aller à l'endroit où on veut aller, de marquer un but, de gagner, etc. Et la focale pour que l'équipe fonctionne, c'est pas isolément les techniques de chacun, les compétences de chacun, ça va être comment le groupe va interagir l'un avec l'autre. Donc c'est pas l'addition des joueurs, mais c'est bien l'interaction entre eux qui va produire quelque chose de nouveau, et donc ce concept d'émergence. Donc c'est là que je trouve incroyable, parce que quand on regarde au travail un service, quand on regarde une société, comment elle fonctionne et son système politique, ce qui va être intéressant, c'est de voir les interactions sont-elles bonnes ou mauvaises, vont-elles vers un but commun ou pas. Et c'est là que, du coup, on change de paradigme. On ne va plus regarder les éléments les uns dissociés des autres comme s'ils vont s'ajouter et s'additionner, mais bien l'interaction. Et du coup, ça me rappelle un livre dont on a parlé juste avant, qui, moi, m'a complètement passionnée, d'Amy Servan-Schreiber, qui s'intitule « Super collectif, la nouvelle puissance de nos intelligences ». Et il évoque l'impact que nos interactions peuvent avoir, et surtout la richesse de la diversité. Quand il y a une décision qui est prise, ou pour avoir le meilleur impact possible, donc là, par exemple, si on veut résoudre la crise écologique, pour trouver la meilleure solution possible, elle ne viendra que si on prend des avis et des opinions d'un nombre de personnes le plus diversifié possible. Et dans ce livre, il parle à un moment de la sagesse des foules, où Francis Galton, c'est un statisticien britannique qui va sur un marché et on demande à plein de gens de définir quel est le poids de la viande d'un bœuf. Et donc les gens votent, donc ils sont assez nombreux, et on se rend compte que le poids, la médiane des différents votes est de 548 kilos, et que le poids total du bœuf est de, je crois, 543 kilos. Donc là, le résultat est presque parfait, et il est beaucoup plus proche du résultat réel qu'un vote de manière isolée, qui lui était beaucoup plus faux. Donc en fait, il montre dans ce livre que c'est la diversité des opinions et des avis qui va permettre de contrebalancer, chaque vote va contrebalancer les erreurs des autres et va arriver vers une médiane qui est la plus fidèle à la réalité. Et quand on voit que scientifiquement, statistiquement, il se passe ça, et sur le plan géopolitique, même d'imaginer, il y a une étude qui a été menée au MIT pour essayer de déterminer dans les 5 ans qu'est-ce qui va se passer sur le plan géopolitique avec la place de la Chine, dans le football, qui c'est qui va gagner, etc. Et ils ont décidé de sonder des individus comme vous et moi dans la société, et à côté de demander à des spécialistes. Et du coup, c'est les individus pris de manière isolée un peu partout dans le monde qui n'avaient aucune connaissance, certains travaillaient dans le bâtiment, dans l'économie, d'autres étaient peintres, etc., qui sont arrivés au plus près des prédictions dans les 5 ans de ce qui allait se passer dans le monde. Et c'était vraiment le résultat de la sagesse des foules, de toutes ces personnes prises isolément parce qu'elles étaient des personnes très diverses prises ça et là. Donc pour moi, l'intelligence collective, c'est vraiment cette idée d'émergence, de partir de deux choses, deux éléments, deux personnes différentes et quelque chose de nouveau qui arrive. Et l'idée de vraiment miser sur la diversité pour aller vers la meilleure solution possible.
Moi, ce que ça m'évoque en vous entendant parler, c'est j'ai vraiment l'impression que c'est adopter un regard à la loupe, au microscope, sur les interactions et sur... les modes de communication, et enfin quels qu'ils soient, mais c'est un peu comme ça que je ressens là en vous écoutant parler. L'intelligence collective, ce serait un peu regarder à la loupe ce qui se noue, ce qui se joue dans les échanges, et notamment ces traits d'union dont vous parlez. Je trouve ça très poétique. Je voulais revenir un petit peu à ce qu'on a pu entendre un peu plus tôt dans votre discours, qui est votre sensibilité toute particulière au son et à l'acoustique. Vous vous dites fasciné par la voix. D'ailleurs, vous me recevez aujourd'hui chez vous, dans votre petit cocon que vous avez pour l'occasion paré de ses plus beaux atours acoustiques. Et du coup, j'aimerais bien me prêter au jeu de votre podcast Fréquence Collective et détourner une question qui rythme chacun de vos épisodes. Donc ma question est, si vous aviez non pas un mot comme vous avez l'habitude de le demander à vos invités, mais peut-être plutôt un son, un morceau ou une pièce musicale qui vous évoque l'intelligence collective, lequel serait-ce et pourquoi?
Oui, je pense tout de suite à un morceau, le Dapacem Domine d'Arvo Pärt. C'est un morceau qu'on a repris avec le chœur de l'Orchestre de Paris en 2015 et qui a été enregistré au moment des attentats à Paris comme hommage aux victimes des attentats. Et il y a un enregistrement du coup qui a été fait du chœur de l'Orchestre de Paris, et c'est un morceau qui me touche beaucoup. Donc on peut écouter un extrait pour vous laisser entendre les voix.
Merci beaucoup Caroline, et merci au chœur de l'Orchestre de Paris pour cette très jolie et émouvante parenthèse musicale. Est-ce que je peux vous demander à nouveau pourquoi ce morceau et le lien que vous faites entre ce joli morceau et l'intelligence collective ?
Je l'ai choisi parce que c'est un morceau qui pour moi est très fort, donc je n'étais pas dans le chœur à ce moment-là, c'était un morceau qui a été enregistré avant que j'auditionne pour le chœur, et c'est celui qui m'a donné envie d'auditionner d'ailleurs. Je le trouve très fort parce qu'on ressent toutes ces voix qui apparaissent les unes après les autres en canon, on entend les voix d'hommes, les voix de femmes, les différentes tessitures, différentes hauteurs de voix, les différents timbres qui émergent ça et là en les écoutant. et à la suite des autres, et toutes ces voix convergent vers un message commun qui est la paix. Et musicalement, humainement, pour moi, c'est vraiment un morceau qui vient faire converger les deux. Les deux sont au service du commun qui est là, on parle de paix ensemble. Tous ensemble, on parle de paix, on chante ensemble et on est là pour ça. Donc au niveau émotionnel, ça m'a tout de suite appelé. Musicalement, vu que le message va dans ce sens et qu'on ressent les harmonies, voilà, j'ai été très vite saisie. Donc pour moi, sur le plan musical et sur le plan humain, c'est très fort. Et c'est pour ça que j'ai choisi ça. Et l'intelligence collective, pour moi, elle est présente parce qu'il y a cette diversité des voix qui sont là vers quelque chose de commun qui touche tout le monde et qui transmet beaucoup de choses.
Mais justement, votre vision, c'est de porter l'intelligence collective par la voix. Mmh. C'est d'ailleurs l'essence de Fréquence Collective, votre podcast. Du coup, j'aime assez l'idée de vous donner la voix. À vous qui vous définissez comme une porteuse de voix. Mais au-delà de ce podcast, comment est-ce que vous mobilisez au quotidien l'intelligence collective ? Quel pouvoir vous lui attribuez ?
Je suis persuadée, pour d'abord vous transmettre ma conviction, c'est que je suis persuadée que l'intelligence collective est la solution. Les intelligences collectives, parce qu'il y en a plusieurs, mais pour moi c'est la solution aux enjeux urgents qu'on rencontre aujourd'hui. Et toutes les études montrent l'impact qu'elle a, très concret, sur les décisions à prendre, le fait de prendre les soins les uns des autres dans un cadre très précis. Il y a quelque chose de très concret et qui permet de répondre à des problématiques brûlantes aujourd'hui. Donc ça, c'est l'importance que je lui donne aujourd'hui dans ma vie. Ensuite, effectivement, avec le podcast Fréquence Collective, c'est un podcast dans lequel j'ai à cœur de donner la voix à toutes les personnes qui... s'inspire de la force du collectif pour faire avancer des situations, des enjeux, et ça peut être juste un témoignage de vie sur comment eux ils vivent leur vie au quotidien sans forcément d'engagement ni militant. C'est vraiment comment chaque personne dans le podcast, donc il y a des sportifs de haut niveau, il y a des personnes qui s'investissent dans la politique, il y a des artistes. Il y a tout le panel des personnes qui, dans leur vie, cherchent à se nourrir du collectif d'une manière ou d'une autre, sous l'aspect de la rencontre, sous l'aspect de recherche dans l'univers végétal et animal pour voir comment la nature coopère. Donc, c'est donner la voix à toutes ces sources d'inspiration qui nous redonnent envie d'agir au quotidien. Parce que j'ai eu la sensation, moi, notamment dans le premier confinement, que ce qui nous manque aujourd'hui, et c'est ce que portent beaucoup de personnes qui sont investies dans le combat pour lutter contre le dérèglement climatique aujourd'hui, c'est d'apporter des nouveaux récits, parce qu'on se sent vite paralysé par toutes ces mauvaises nouvelles dès qu'on commence à lire des livres, des études très concrètes. C'est difficile d'arriver à se projeter dans un autre champ des possibles, sachant qu'on voit la réalité arriver fatalement vers une issue sur laquelle on n'a pas de prise. Et je pense que l'intelligence collective a de manière très pragmatique des solutions à nous apporter, mais que déjà, pour la mettre en œuvre, il faut qu'on en ait envie, il faut qu'on voit que c'est possible, il faut qu'on se transmette des émotions positives et des envies d'agir. Et ça paraît pas très concret comme ça, ça paraît être un enjeu émotionnel, un peu périphérique, mais en fait, c'est là que tout se joue quand on discute entre nous. Et dans le podcast, le fait d'entendre des personnes, notamment par exemple Malek Boukherchi, ultramarathonien, qui fait 1400 bornes dans le désert de Mauritanie pour rencontrer des personnes, et qui fait un témoignage en expliquant que lui, il court pour rencontrer des gens, et que son carburant, c'est pas forcément que sa force physique, c'est pas forcément son mental, c'est les gens qu'il rencontre. Et je trouve que rencontrer des personnes comme ça, ça donne un carburant, justement, pour soi-même se construire une posture qui donne envie d'agir. Et moi, j'ai eu la sensation, à un moment donné, de ne plus savoir comment agir, de ne plus savoir où trouver mes ressources. Où c'est que je trouve, moi, mon carburant pour avancer dans la vie. On a chacun le nôtre. On est chacun très singulier sur cette question. Mais elle est très importante parce que c'est là qu'on a besoin de se ressourcer pour aller plus loin.
On peut dire que votre podcast, c'est du coup un petit peu votre carburant à vous. Et d'ailleurs, après un passage par Make Sense, qui est un incubateur de projets à impact qui vous a accompagné dans votre projet de médias sur l'intelligence collective, vous avez fait le choix de vous former en facilitation en intelligence collective. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce voyage initiatique, en quelque sorte, que vous avez fait au pays de l'intelligence collective ?
Oui, c'est vrai que c'était une très belle expérience. Donc, je l'ai fait avec Marine Simon, que j'ai rencontrée dans le cadre de mon podcast. Et Marine Simon, du coup, est formatrice en intelligence collective. Et elle m'a proposé de faire une formation donc, aux Amanins, qui est un centre agroécologique dans la Drôme. Et donc j'ai suivi cette formation qui consiste à découvrir les bases de l'intelligence collective. Donc il y a tout un cadre qui est très concret sur comment l'intelligence collective peut se construire ou non dans un groupe, avec des règles assez précises. Il y en a plusieurs, mais ça donne toute une méthodologie sur comment on peut mieux fonctionner dans un collectif, comment un collectif peut mieux marcher qu'un autre. Et donc il y a, dans cette formation... Marine Simon amène vraiment à découvrir les fondamentaux. Et toute la formation est basée sur, justement, tout de suite, on rentre dans les méthodologies d'intelligence collective, on construit nous-mêmes le parcours d'intelligence collective, donc la formation d'intelligence collective ensemble. Et pour moi, c'était très porteur parce que ça donne des méthodologies concrètes. Ça permet de vraiment cerner qu'il y a des cadres qui sont propices ou non à des bonnes interactions et à des bons contextes pour que les collectifs... marche correctement et puisse aller vers quelque chose ensemble qui va vers le meilleur, entre guillemets. Donc pour moi, cette formation, elle a été très porteuse. Et notamment, Marine Simon définit, et j'ai trouvé très inspirante cette définition, l'intelligence collective comme du développement personnel solidaire. Et c'est vraiment sa tournure qui lui est propre et qui pour moi résonne très fortement, c'est que l'intelligence collective, c'est proposer un cadre pour aller donc vers un but, donc il y a toujours un objectif. Mais dans ce chemin, comment on prend soin les uns des autres, au mieux, on s'écoute les uns les autres, au mieux, et on va vers ce but commun qui de toute façon sera le plus impactant, le plus durable et la meilleure solution, parce qu'elle sera l'émergence de toutes les personnes présentes qui auront eu leur voix, qui auront eu un cadre très précis pour aller vers l'objectif qui était défini. Donc cette formation pour moi a été très porteuse, notamment parce qu'elle a lieu aussi dans un environnement où on est au milieu de la nature et que Marine Simon s'inspire beaucoup de tout ce qui se passe dans la nature, les coopérations, les symbioses, et d'ailleurs elle a un podcast qui s'appelle « Tout tourneront sur cette terre, nous sommes les seuls à l'ignorer » qui est inspiré de son livre où elle interviewe des personnes qui sont en résonance avec le monde naturel, végétal, animal et sur comment on peut s'en inspirer pour aujourd'hui trouver des meilleures manières d'interagir les uns avec les autres, des meilleures manières de penser sans être dans une vision binaire, dans une vision en silo et d'être vraiment dans cette logique bah, comme la nature nous invite à le faire, d'être en lien les uns avec les autres, interdépendants. J'ai eu la sensation de vivre une expérience collective réussie. Et je pense que c'est ça aussi qui amène beaucoup l'intelligence collective, c'est que je pense que chacun à nos endroits, et Marine le dit aussi beaucoup en ce sens, on est blessé par des collectifs qui ne fonctionnent pas. Donc c'est aussi l'histoire de la vie, mais c'est aussi l'histoire d'une culture. Comment l'intelligence collective vient réapporter du soin les uns avec les autres, comment est-ce qu'on s'écoute mieux, comment est-ce que se donne la voix chacun les uns les autres, et que quand on a tous ce terreau propice, déjà personnel et collectif, on va vers le mieux. Et je pense que la responsabilité individuelle de prendre soin de soi est très importante aussi dans ce processus.
C'est vraiment passionnant cette approche que vous avez les étoiles qui sont dans vos yeux quand vous parlez de cette formation. Mais quels seraient vos conseils pratiques à destination de personnes non initiées pour infuser un petit peu d'intelligence collective dans nos vies au quotidien?
Vu que moi, c'est passé par la musique, j'aurais tendance à dire d'abord, avant de la transmettre, je pense qu'il faut la vivre. Parce qu'on voit tout de suite la différence et le gap qu'il peut y avoir avec quelque chose qui ne fonctionne pas ou quelque chose qui n'est pas forcément moteur. Parce qu'il y a aussi des balances entre ce qui fonctionne et ne fonctionne pas. Des fois, il y a des situations qui sont pas forcément porteuses, mais du coup qui ne donnent pas envie d'agir et qui ne sont pas stimulantes. Donc j'aurais un conseil, c'est d'essayer de cultiver au maximum des moments dans sa vie, que ce soit avec sa famille, avec ses amis, avec ses collègues au travail, des moments de relations qui fonctionnent et qui nous stimulent. Et à ce moment-là, je pense qu'on arrive beaucoup mieux à cerner ben, pourquoi ça a fonctionné. On peut s'y intéresser, se dire « c'est intéressant ce qui vient de se passer là ». Et ensuite, en creusant, par des échanges, ça peut être des formations, ça peut être toutes sortes de portes d'entrée différentes, de voir qu'est-ce qui a été propice à ça et qu'est-ce qui, du coup, à l'inverse, ne l'est pas, et on, du coup, on a plutôt envie de l'écarter par la suite. Donc ce serait plutôt une invitation à essayer de cultiver ça dans sa vie à soi pour ensuite arriver à voir comment on peut le proposer, l'infuser, parce que c'est difficile de transmettre et d'infuser quelque chose quand soi-même on l'a pas vécu. Parce que je pense qu'avant d'être quelque chose d'intellectuel, certes on dit intelligence collective, mais pour moi c'est quelque chose qui passe d'abord par le corps et par le ressenti, parce que c'est là que tout se passe, et c'est là que les déclencheurs s'active. C'est, je pense, très porteur aussi de se former là-dessus. Il y a de plus en plus de formations qui se font et qui permettent de créer des petits changements aux échelles individuelles et du coup, a fortiori, à l'échelle collective.
Aucun de nous ne sait ce que nous savons tous ensemble. Euripide, dramaturge.
Ça fait sonner en mon esprit la devise de la Comédie française, simul et singulis, être ensemble et être soi-même. L'intelligence collective, c'est un peu mettre à profit du collectif les spécificités de chacun et enrichir l'individuel de la force du collectif. En quelque sorte, c'est un équilibre à deux flux entre soi et les autres. Et ça me fait penser à une notion que vous avez déjà abordée, que je trouve aussi très poétique, c'est celle de l'ingénierie du lien.
C'est un terme que j'ai lu dans un livre de Pierre Lévy, qui a été le premier à écrire un livre en France sur l'intelligence collective, et il évoque à un moment donné l'ingénierie du lien. C'est tout ce qui permet l'ingénierie, je le vois comme toutes les formes de liens qui vont permettre d'être ensemble vers quelque chose de nouveau. Et du coup, quand je le réutilise, c'est vrai que ça m'évoque beaucoup cette focale qu'on peut avoir sur comment se tisse un lien, un petit peu la typologie du lien.
Plutôt, je citais le dramaturge Euripide, ou encore la devise de la Comédie française. Et un de nos points communs, Caroline, je pense, c'est que nous sommes toutes deux convaincues du rôle de l'art, et avec lui des émotions, dans le vivre ensemble. Et plus je vous entends parler du collectif, et plus j'ai le sentiment qu'il est intimement question d'émotions. Quel lien faites-vous, dans votre expérience personnelle, ou dans votre approche de l'intelligence collective, entre justement l'intelligence collective et l'intelligence émotionnelle ?
Ce que j'aurais envie de répondre là tout de suite, c'est que pour moi, l'intelligence émotionnelle, le rapport qu'on a nous à nos émotions, le plus juste et le plus approprié possible, c'est pour moi quelque chose qui va avoir une très très grande importance dans le rapport qu'on va avoir avec les autres, enfin, et du coup dans un collectif. Pour moi d'abord, il y a cette bascule dans un premier temps sur soi, c'est pour ça que je répondais tout à l'heure sur le fait que si j'avais une invitation à faire pour vivre l'intelligence collective et pour la transmettre, c'était d'abord de se faire un retour sur soi, de prendre soin de soi, de vivre des situations de collectif réussi, d'arriver à les alimenter, à les nourrir au maximum pour soi, pour les autres. C'est que les émotions qu'on va vivre, et d'ailleurs c'est assez étonnant parce qu'on a toujours mis au banc les émotions, en tout cas dans nos sociétés actuelles, on est beaucoup axé sur la raison, sur un discours rationnel, sur le fait de ranger les choses dans des cases, alors que l'être humain il s'est construit d'abord, sur le plan juste, biologique et physique, sur les émotions, l'amygdale qui gère, je crois, dans un premier temps la peur, et de manière générale nos émotions, elle a émergé sur le plan biologique avant les sphères rationnelles de notre cerveau. Donc en tant qu'être humain, on est déjà avant tout des êtres sensibles et émotionnels, et c'est par les émotions qu'on va faire circuler beaucoup plus de choses entre nous que par les mots, que par... On est d'abord des êtres sensibles. Et donc ça a toute sa place dans un collectif, ça a toute sa place dans le rapport qu'on a à soi, d'arriver à se comprendre, d'arriver déjà à comprendre ce qui nous traverse, et d'arriver à comprendre ce qu'on renvoie aux autres. Ça donne toute la consistance à ce trait d'union ou pas, ça lui donne toute sa forme, toute sa singularité. Donc j'aurais une invitation, c'est de chacun arriver à s'autoriser peut-être, je dirais, à mieux se comprendre sur le plan émotionnel, et après de réhabiliter la place de l'émotion dans nos rapports comme quelque chose qui fait partie de notre constitution et quelque chose qui va venir nourrir le rapport les uns aux autres. L'émotion, elle est là et elle régit de toute façon nos rapports. Et qu'il faut juste leur trouver la bonne place, et c'est là que l'intelligence émotionnelle est pour moi importante, c'est qu'elle donne des billes pour arriver à mieux se comprendre, arriver à mieux communiquer, et arriver à mieux réguler sans écraser. Ça veut dire juste arriver à comprendre où est la juste place dans les émotions. Et j'aime beaucoup beaucoup quelque chose que dit Christophe Hague, qui est un chercheur en intelligence émotionnelle, notamment à l'EM Lyon, et il explique qu'on a tous une empreinte émotionnelle les uns envers les autres, et qu'elle est indéniable, cette empreinte émotionnelle et qu'on n'est pas juste un cube rationnel, mais qu'on a une empreinte émotionnelle et qu'on a une responsabilité de cette empreinte émotionnelle-là, les uns envers les autres. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut tout le temps être, je ne sais pas, ce collègue ou cet ami toujours rayonnant, mais qu'il y a une vigilance sur ce qu'on transmet les uns aux autres et qu'elle a un poids considérable et extraordinaire dans nos relations. Donc je lui donne une importance particulière quand on parle de collectif et je pense que l'intelligence collective et intelligence émotionnelle sont vraiment intimement imbriquées. Et du coup, c'est vrai que quand je pense les années à venir et les différents enjeux qu'on rencontre actuellement, je me projette vers un futur où l'intelligence émotionnelle aura toute sa place dans l'univers du travail, dans nos relations familiales, amicales, dans la relation qu'on peut avoir de quartier avec les commerces qu'on fréquente tous les jours. Je pense que c'est quelque chose qui, pour moi, c'est un petit peu la vision que j'ai de l'après, où j'espère vraiment qu'elle aura de plus en plus de place.
Et justement, à propos de perspectives, quels sont vos rêves pour demain? Quelle est la prochaine étape de votre parcours dans l'intelligence collective et émotionnelle?
De manière professionnelle et personnelle, j'aimerais moi m'engager davantage dans une proposition de contenu, donc que ce soit par du podcast, que ce soit par ce que je fais en musique, ou de manière assez générale, sans avoir forcément ciblé des choses, mais c'est de m'engager de plus en plus dans des contenus qui soient le plus inspirants possible, dans ces nouveaux récits qui vont donner plus de consistance et de force à chacun pour aller vers la suite. Autorisez-vous à être complètement fou dans vos envies parce qu'elles peuvent devenir très concrètes.
Merci beaucoup Caroline pour ce moment de partage et de poésie autour des intelligences collectives et merci de nous avoir ouvert la voie du passage à l'action. Pour en savoir plus sur l'intelligence collective, vous pouvez écouter la saison 1 du podcast Fréquence Collective et je vous conseille de rester connecté pour une saison 2 qui promet de faire résonner les émotions. Et si vous souhaitez creuser la thématique, je vous conseille le livre d'Emile Servan-Schreiber intitulé Super Collectif, la nouvelle puissance de nos intelligences. Utopie Plurielle est disponible sur vos plateformes d'écoute préférées. Retrouvez les articles et podcasts de La Turbine sur le blog de laturbine.org. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.
Utopie.
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 Pluriel.
Utopie plurielle.
Utopie plurielle.
Utopie plurielle.
Utopie plurielle.
Utopie plurielle, le podcast de La Turbine.
La Turbine.
La Turbine.
La Turbine.